Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Eh bien, salut, on est en direct, en train d'enregistrer avec Jean Galfione. Salut Jean, comment vas-tu ?
Je vais bien, merci, salut.
Écoute, je suis vraiment ravi de pouvoir faire cet échange aujourd'hui. Comme je te disais, t'as un petit peu marqué mon enfance pour avoir traîné un petit peu sur les pistes d'athlée et être un grand fan de l'olympisme. Tu vois, j'ai un souvenir encore presque encore tout frais de ce concours à la perche que j'ai suivi avec mes parents devant la télé. Et donc forcément, j'ai une petite madeleine de Proust, une petite boule au ventre aujourd'hui. Mais on va aussi pas mal parler de voile et de course au large, parce que c'est ton nouveau défi depuis près de 15 ans maintenant. Ça fait plus de 15 ans que tu as décidé de te reconvertir dans la voile.
Oui, c'est ça.
Et comme je te le disais, il y a une tradition sur le podcast, c'est de découvrir qui étaient aussi les athlètes quand ils étaient un petit peu plus jeunes. Et la première question, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Premier souvenir de sport, je me rappelle du mondial, t'étais pas né, du mondial de foot de 84, parce que je le regardais et j'étais pas très vieux non plus, hein, mais donc j'avais 12-13 ans, j'étais avec mon père, et c'est ma première, je crois que c'est mon premier, non, c'est-à-dire c'est 82, pardon, 82. Et c'était le mondial avec Platini, France-Brésil, France-Allemagne plutôt. Enfin, c'est mon premier souvenir, je crois, fort de sport. J'avais suivi toute la compétition avec mon père. C'était un peu le rendez-vous qu'on avait tous les deux. Et on se mettait devant l'écran et j'adorais ces moments passés avec lui et à découvrir en fin de compte cette compétition. Voilà, ça c'est mes premiers moments de sport comme spectateur. Après, je me rappelle des heures passées à taper dans un ballon contre un mur aussi. Voilà, c'était ma vie, ça. Je passais des heures contre un mur, tout gamin, à taper contre un mur. Je me faisais des films. J'étais à la fois le tireur de coup franc et à la fois le gardien, parce qu'il fallait arrêter le ballon quand il revenait. Et ça me prenait des heures et des heures tout le week-end, quoi.
Tu t'entraînais pour être Platini, c'est ça, ou le futur?
Ouais, c'était ça. Platini, Rocheteau, je sais plus qui y avait à l'époque, mais enfin c'était ça, ouais, c'était cette génération-là.
Mais du coup, t'as dû voir l'épisode Schumacher et Battiston en direct?
Oui, voilà, c'est ça. Ouais, exactement. Le France-Allemagne avec Battiston et Schumacher qui lui rentrent dedans et là, oui, bien sûr, cette demi-finale incroyable qui a marqué l'histoire du foot français. Ouais.
Ah ouais, et puis même ouais, du foot mondial, je pense que c'était, tu vois, j'étais pas né, c'est vrai, mais j'en ai sacrément entendu parler, et puis même maintenant on peut retrouver les images, c'était vraiment vraiment impressionnant, et d'ailleurs je recommande de regarder aussi le, je sais pas si t'as revu les images après, mais on entend les voix des commentateurs qui sont presque en train de pleurer en ligne. C'est très rare maintenant de retrouver des images aussi spontanées et aussi sincères de sport, quoi.
C'est super parce qu'il y avait toute une émotion autour de ce match. C'était une demi-finale, première fois que la France arrivait en demi-finale. C'était la première fois qu'on a commencé à avoir des grandes stars du foot en France. Et donc, il y avait toute cette montée en puissance jusqu'aux demi-finales et en même temps contre l'Allemagne qui était le grand favori. La grande équipe favorite et nous avec notre petite équipe de France qui avait fait des miracles déjà pour arriver jusqu'à là, qui avait des très bons joueurs bien sûr, et en même temps on mène et puis on se fait remonter, il y a des prolongations, il y avait toute une dramaturgie autour de ce match qui était incroyable, et puis bien sûr la blessure de Battiston avec cette agression hallucinante, et puis les commentateurs à l'époque, c'était génial parce que les phrases et les mots étaient pas réfléchis et calculés, c'était d'une émotion, une spontanéité directe, et c'était extraordinaire. Et puis bien sûr ça a marqué parce qu'on n'a pas gagné aussi, hein. Je pense que on est resté bloqué sur cette demi-finale, et s'il y avait eu une finale, on n'aurait parlé que de la finale, gagnée ou perdue. En tout cas, ce match était incroyable.
Ouais, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, et je rajouterais même on était l'équipe qui jouait le mieux, quoi. On était la belle équipe du foot. On était les joueurs, on était les tacticiens, les techniciens. Et de l'autre côté, c'était un peu les gros robots méchants physiques. Donc forcément, il y avait un côté très romantique, effectivement.
Ouais, c'est ça, quoi. On avait une équipe. Il y avait Alain Giresse, le petit Giresse qui a pu se voler, qui marque un but. Il y avait Marius Trésor. Il y avait voilà, il y avait Platini. Il y avait des gens, Maxime Bossis. Enfin, il y avait des personnalités, des formats tout à fait différents dans cette équipe. Et c'est ça qui. Je pense que c'est à partir de là que le public français a accroché et est devenu plus fan du foot en France. Enfin, même si ça existait déjà beaucoup, mais ça a ouvert les portes du grand public. J'ai l'impression ce mondial-là, en tout cas.
Ouais, c'est clair. Bon, on rentrait dans la cour des grands, on peut dire. Forcément, ça donnait envie. Et tu suivais un peu le foot? Et t'en as fait? Ou t'avais un club que tu supportais?
Mais moi, pour la petite histoire, donc du coup, j'étais un peu petit. On habitait Porte de Saint-Cloud et j'étais à l'école du Parc des Princes. C'était une école qui était collée. Il y avait une rue qui séparait le Parc des Princes de l'école. Donc tous les mardis, le Paris Saint-Germain, qui n'était pas encore le Paris Saint-Germain qu'on connaît aujourd'hui, mais qui était une des très bonnes équipes de première division à l'époque, nous donnait des places et on avait le droit avec l'école primaire d'aller au Parc des Princes. Donc tous les mardis ou presque, on allait en rang au Parc des Princes avec le prof qui était fan de foot, et donc j'assistais à l'émergence de ce club, quoi. C'était marrant, du Paris Saint-Germain à l'époque. C'était Safet Susic, c'était Moutier, ouais, donc Rocheteau, bref, j'ai oublié les noms, mais c'était il y a longtemps, et donc c'est mes premiers souvenirs dans un stade, c'était au Parc des Princes avec le COP Boulogne qui commençait à créer, qui mettait l'ambiance, voilà. Donc moi j'étais tout petit, hein, primaire, donc du coup ça c'était mes premiers souvenirs en tant que spectateur dans un stade, ouais.
En plus, les débuts du Paris Saint-Germain, ça devait être quelque chose aussi. C'est quoi, c'est 71 la création du club, je crois, officielle. Il y a plusieurs dates, mais ça a été un peu compliqué.
Là, on était dans les années 80, début des années 80, donc c'était à peu près ça. Et ça commençait à être un bon club. Ils avaient gagné une Coupe de France, je crois, à ce moment-là. Enfin, c'était le début de la grande équipe, la future grande équipe, mais déjà qui était une référence. Ouais.
Et tu suis toujours un peu le foot? Tu regardes un peu le Paris Saint-Germain, même maintenant?
Alors, avec moins de passion, faut dire, même s'il y a des talents incroyables. Mais voilà, c'est pas depuis quelques années, on sait, hein, le foot business fait que moi, comme tu disais tout à l'heure, j'aime bien le romantisme autour du foot. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de place à ça, il y a la place à un business avec des grands talents, des grands joueurs qui sont incroyables à voir jouer, hein, bien sûr. C'est un régal. Mais après, ce qui est plus compliqué, c'est aujourd'hui de suivre le championnat. C'est-à-dire, on sait plus sur quelle chaîne regarder déjà, à quelle heure, quand, comment. Et derrière, il y a moins de passion. Mais oui, je suis toujours spectateur, on va dire, mais moins assidu.
Ouais, bah je peux comprendre. Je ressens un petit peu la même chose que toi. On n'a pas le même âge, mais on va passer tous les deux pour des vieux schnocks si on dit que c'était mieux avant.
Tu vois, moi, j'habite en Bretagne et il y a des équipes en Bretagne. Je pense à Guingamp. Alors, je suis pas Guingamp à fond, hein, mais ou ailleurs en France, d'ailleurs, que je connais moins bien. Mais il y a des équipes encore où les spectateurs, ils vont dans le stade et ils savent qu'ils soutiennent. Pourquoi ils soutiennent un club, quoi. Ils connaissent l'histoire du club, ils connaissent les dirigeants tout le temps. Il y a quelque chose qui est plus forte que dans ces gros clubs européens où forcément, si on veut être concurrent, il y a forcément du business qui rentre. Hein. C'est pas dire c'est bien ou mal, mais voilà, c'est rare d'avoir un club où il y a un joueur qui a fait toute sa carrière dedans, quoi. Enfin, en tout cas, aujourd'hui au PSG, c'est très rare, ça existe. On sait que, je sais pas, moi, je connais un peu plus Rennes. Et Rennes, il y a Romain Danzé, hein, d'ailleurs, qui est parrain de mon bateau. Lui, il a fait toute sa carrière à Rennes. Il est breton et maintenant il est encore dans le club. Et donc, il connaît tous les dirigeants depuis tout le temps. Enfin, il y a une âme qui existe. Ça existe dans d'autres clubs, hein, c'est sûr. Voilà. Après, c'est juste cette différence qui, moi, me gêne parce que ça nous échappe, en fait.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, et puis on voit même, bon, après le Paris Saint-Germain, c'est un peu l'archétype effectivement du foot business, mais même dans d'autres grands clubs européens qui avaient gardé un peu cette touche romantique, bon, on le voit que ça s'est perdu un peu dans ces dernières années, que ce soit, je pense, aux clubs anglais, Arsenal ou Liverpool, même Manchester, on sent qu'il y a quelque chose qui est parti depuis quelques années, ou une Juventus de Turin aussi, il y a un côté un peu moins magique, moins idyllique qu'aurait pu y avoir encore il y a 10 ans de ça, quoi.
Donc, ouais, après c'est de faire un changer. Probablement que pour avoir une vision sur long terme, au moins moyen terme, on est obligé de niveler tous les, enfin, voilà, le côté romantique, on le met de côté. Après, faire une saison incroyable, ça pourra peut-être encore se produire sur des équipes qu'on n'attendait pas avec ce côté-là. Mais c'est vrai qu'on a une réflexion économique sur plusieurs années, voilà, il y a autre chose qui rentre en jeu probablement, quoi. Après, ça n'empêche pas d'avoir un beau spectacle aussi, hein. Je suis pas en train de dire que c'est nul ce qui se passe sur les terrains, mais voilà, moi j'aimais bien voir la réaction des joueurs, j'aimais bien avoir cette aspérité-là sur la vie des gens, sur le comportement entre eux, voilà. Bon, je sais pas, parfois ça existe encore, hein, c'est sûr, mais bon, c'est ce qu'on pourrait regretter. Bon, après, voilà, pas non plus. Je suis pas en train de dire que c'était mieux avant non plus, hein, c'est que
Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, mais on ferme cette petite parenthèse de nostalgique. Donc, t'as testé le foot. Est-ce que t'as testé d'autres sports, toi, quand t'étais plus jeune? J'ai lu que tes parents étaient très, très sportifs et que tu avais dans ta famille un médaillé olympique aussi.
Oui, alors moi, mon père était en équipe de France d'escrime, il faisait de l'épée. Ma mère était en équipe de France de gymnastique, elle avait été championne de France junior de gymnastique, et donc ils se sont rencontrés à Font-Romeu, hein, sur des stages d'équipe de France un jour, hein, et puis en effet mon père a un de ses meilleurs copains s'appelle Jean-Claude Magnan, qui a été médaillé olympique, vice-champion olympique, et qui a épousé la sœur de ma mère, donc voilà. Et donc c'est resté dans la famille, et lui-même, pour la petite histoire, a eu une fille qui s'appelle Clotilde, et j'ai fait les Jeux olympiques avec elle. Elle était sélectionnée olympique en fleuret aux Jeux d'Atlanta. Je suis issu d'une famille sportive, de culture sportive, mais après c'était une génération aussi, surtout dans les sports où je vous parle, où à 20 ans ou 21 ou 22 ans on avait fini sa carrière, sauf si on était champion du monde ou champion olympique, où on pouvait durer un peu plus longtemps. C'était pas des sports du tout professionnels, il y avait pas du tout d'aide, et il y avait forcément des doubles projets familiales ou professionnels qui allaient avec. Donc moi, mon père, il a arrêté très tôt, il était très talentueux, mais il était étudiant à côté, il a bossé, donc il a arrêté tôt, puis après ils ont fondé surtout une famille avec ma mère. Et puis à la maison, la culture sportive, après, c'était pas que la culture du haut niveau et du champion, tout ça, il y avait pas une médaille, pas une coupe à la maison. On parlait pas du tout, rarement de leur carrière d'avant avec des articles de presse, tout ça n'existait pas, hein. C'était Moi, quand j'ai commencé à faire un peu de compétition au niveau, ils étaient très contents, mais ils m'ont jamais poussé, quoi. Par contre, ils comprenaient ce que ça voulait dire et du coup, ils en avaient pas peur et ils m'ont pas freiné ils m'ont encouragé, quoi, tout simplement.
Et ça leur a pas fait peur le fait que justement eux, ils aient pas connu un peu la structure, si tu veux, qui permet d'accompagner un athlète de haut niveau pour qu'aussi il puisse se reconvertir, qu'il puisse créer un double projet. Le fait qu'eux, ils ne l'aient pas connu, ça ne les a pas inquiétés pour toi?
Non, parce que moi, disons que quand j'étais gamin, l'école, ce n'était pas un endroit où j'aimais bien y être et j'étais très malheureux à l'école, en fait. Psychologiquement que physiquement, j'avais du mal à rester assis, je me mettais debout, j'avais mal aux jambes, aux fesses, j'avais besoin de bouger, quoi, de me dépenser. Et puis après, c'était une torture, quoi. L'école, c'est rien qui me plaisait là-dedans, quoi. Donc très temps pendant des heures, ça me paraissait mais une éternité. Et puis aller faire des devoirs plutôt qu'aller courir et jouer après, c'était encore la double peine. Et puis donc du coup, j'étais un peu en décalage, j'étais un peu un gamin comme ça, un peu en décalage parce qu'il est pas, il va pas au même rythme que les autres. Et résultat, il y avait que dans l'activité, dans le sport, quoi, où là ça m'éclatait. Dans la cour de récréation, c'est là où je trouvais ma place parce que j'avais plein de copains du coup qui ont joué ensemble et tout allait bien à ce moment-là. Mais donc du coup, mes parents n'ont pas eu de peur quand ils ont vu que le sport, c'était quand même une voie, quelque chose qui me tirait vers le haut. Ils n'ont pas arrêté la machine, quoi. Il y a des profs qui disaient, il est trop fatigué, il faut qu'il arrête là. Bon, non, ils m'ont jamais freiné, au contraire, quoi. Ils savaient que c'était un peu ma chance d'avoir trouvé une passion, quelque chose qui me plaise vraiment. Donc non, c'était moteur. Et ça les a pas inquiétés, surtout que moi je suis rentré assez tôt dans des structures, hein, donc c'était plutôt facile, hein, même si après il fallait se mettre au niveau scolaire, parce que mine de rien, c'est des sports-études dont l'INSEP, hein, il faut un minimum de niveau pour pouvoir y rentrer, même si c'est pas très haut, mais il faut quand même suivre les cours. Et après j'ai fait ma scolarité normalement une fois que je suis rentré en sports-études, parce que j'avais trouvé ma place, quoi.
Et tu te souviens s'il y a eu un moment un peu de déclic ou un moment où tu t'es dit, ah tiens, là c'est le début du haut niveau, je vais peut-être en faire ma carrière de la perche et de l'athlète.
Pour tout sportif de haut niveau, à un moment donné, on a chacun ses combats internes. On en parle, on n'en parle pas, c'est conscient ou inconscient. Moi, clairement, quand j'ai commencé à faire de la compétition, je devais être à 4 mètres ou 4 mètres 50 et je sais que j'étais cadet, j'avais 15 ans par là, et donc je commençais en fin de compte le saut à la perche et j'avais des qualités, quoi. Ça commençait à vite progresser et que je savais que le record de France était à 5 mètres 10 et je savais que surtout que je voyais des champions que je commençais à côtoyer qui étaient professionnels et je me disais mais moi c'est ma seule façon d'y arriver, c'est ma seule façon de réussir ma vie et de gagner, d'avoir un métier, quoi, et de gagner peut-être 2-3 sous parce que je voyais pas ce que je pouvais faire d'autre, quoi. J'étais paumé dans tout ce qui pouvait exister dans ma formation scolaire et tout, donc la seule façon pour moi c'était de la survie, hein. Je me disais je vais être champion et ensuite je vais gagner ma vie avec ça, quoi. Donc c'était une motivation pour m'en sortir réellement, hein. C'était alors après tout est relatif, hein. J'avais une famille qui vivait bien, on mangeait tous les repas, j'étais pas malheureux du tout, mais néanmoins intimement et personnellement c'était la seule façon d'être quelqu'un et de pouvoir et de me dire trouver un métier, quoi, trouver quelque chose qui va pouvoir me faire vivre. Alors après l'histoire a été que en effet, j'ai eu la chance de tomber dans un sport sur lequel, quand on est champion, on arrive ensuite à voir un peu de Paris, de sa ville, de son pays, avoir des aides de son club, des petits sponsors. Puis après, voilà. Après, il y a le très haut niveau. Mais donc, j'ai eu cette chance-là de tomber sur un sport qui m'a permis de le faire. Et puis, vite, en fin de compte, avec un entraîneur aussi, on va en parler, de Maurice Ouvion, qui m'a pris sous son aile et qui m'a jamais lâché, quoi.
C'est vrai, ouais. Mais c'est bien que tu parles de chance parce que, et je trouve que t'as beaucoup de recul et d'humilité d'en parler parce que, souvent, je le dis quand même, tu vois, pour avoir rencontré maintenant, je crois, plus de 130 athlètes, je dis, mais il y a quand même aussi une part de chance de trouver son sport, quoi. Si, je sais pas, si Teddy Riner, ses parents avaient été fans de tennis ou de basket, on sait pas si Teddy Riner serait devenu Teddy Riner, tu vois, s'il avait jamais mis les pieds sur un terrain de judo, tu vois, enfin, sur un tatami.
Mais c'est deux choses. Il faut avoir la chance de tomber sur le sport qui te passionne et tomber sur la bonne personne qui te transmet cette passion. Parce que si c'est ça l'essentiel, si t'as personne qui te dit tu vas y arriver, tu peux, et donner les bons conseils de formation et en même temps de te mettre en confiance, bah c'est mort. Tu peux être avoir le plus de qualité physique, si c'est pas ton activité sur laquelle tu te sens, t'es pas la coordination, t'as pas l'esprit à ça, ça marchera pas. Et inversement, si tu peux avoir tout ce que tu veux, si t'as pas la personne qui te dit comment faire et qui te donne cette passion, qui te donne rendez-vous, qui te met en avant, qui te donne confiance en toi, surtout, c'est L'adolescence, c'est des âges où on est un peu paumé, quoi. On a besoin de tuteurs. Et puis, il y a ce qui se passe à la maison. Évidemment, c'est bien, hein. Mais quelqu'un qui prend ce rôle d'entraîneur, de tuteur, de formateur, qui te donne confiance et qui dit, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Il n'y a aucune raison. Ah, non, mais c'est des messages qui te boostent pour la vie, ça.
C'était l'attitude qu'avait Maurice Ouvion avec toi, d'ailleurs?
Je peux vous tout raconter parce que c'était tout à fait ça. Donc, je vous ai expliqué. Moi, je sortais d'une adolescence, scolairement, c'était pas terrible. Je me cherchais beaucoup. J'avais pas confiance en moi, quoi, tout simplement. Comme souvent, les ados, ils savent pas trop, quoi. Et quand j'ai rencontré Maurice, j'étais vraiment pas bon, hein. Enfin, je sautais 3 mètres. Enfin, j'étais même petite catégorie, mais j'étais même pas qualifié au championnat de France. Hein, j'étais loin de là. Même. Je faisais de l'athlé, voilà. J'étais bon dans d'autres épreuves, mais sans plus. Et Maurice, je le vois, il venait d'intégrer mon club, le Stade Français à l'époque, et il m'entraînait à l'autre bout de Paris, Porte de Pantin, ben, donc j'étais du côté de la Porte de Saint-Cloud. Et il me dit, ah, c'est toi, on m'a dit que tu faisais de la perche, ben, viens me voir. Et je dis, ben, c'est où à Pantin? Rendez-vous demain, ou, parce qu'il est d'ailleurs croisé sur un stade. Il donne rendez-vous, j'ai pris ma mobilette, j'ai traversé Paris, je suis allé faire l'entraînement. Et puis au bout de 3-4 entraînements, il m'a dit, bah écoute, maintenant c'est bien, viens à l'INSEP. J'ai dit, mais comment je fais pour rentrer à l'INSEP? Et il dit, bah tu te démerdes. Et l'INSEP, c'est un fort là-dedans pour rentrer, il faut des pattes, il faut des... on est pas nouveau surtout. Et donc du coup, pour rentrer à l'INSEP, mais les premières semaines, je faisais le mur, j'escaladais la grille, quoi. Jusqu'à des grilles, quand j'avais trouvé un grillage qui était un peu défait, mais je me planquais pour aller m'entraîner. Et ça l'amusait, il était mort de. Enfin, c'était presque un test pour lui, mais il était super content de voir que j'avais trouvé des solutions. Et ça a commencé par là. Déjà, il avait testé un petit peu, voir ma motivation. En même temps, moi, je comprenais que je traversais Paris en mobylette, je passais par-dessus au risque de me faire attraper, enfin bon, au risque d'avoir des emmerdes. Pour sauter, j'étais entre 3 et 4 mètres à l'époque, hein, donc c'était rien de justifié par rapport à un objectif sportif, mais pour moi, c'était ma vie, quoi. Je savais que c'était là que ça se passait. Et vite, j'ai progressé, et vite, j'ai eu ma première carte, c'était même pas la mienne, d'ailleurs, j'avais mis ma photo sur une carte d'un autre qui venait plus. Et après, j'ai eu le droit à avoir ma carte d'entrée, je suis passé par la porte principale, alors j'étais fier. Mais vite, Maurice, c'était ça, et puis, pour finir avec ça, oui, il m'a mis en confiance parce que je me rappelle, je rentrais à l'INSEP en 88 en sport-études, je sautais 4m80, hein, c'était un bon petit niveau junior et encore, voilà, c'était pas délire. Hein. Et puis même pas encore cadet, ouais, j'étais pas encore junior. Un an après, donc c'était les Jeux de Barcelone, non, excuse n'importe quoi, les Jeux de Séoul en 88. Et lui, il part à Séoul avec ses athlètes, il y avait deux perchistes. Et donc moi, j'étais rien, quoi, c'est 5 mètres à la perche, quoi. Et il m'envoie une carte postale de Séoul en me disant, je me rappelle, je l'ai encore, avec un archer comme ça, et il me dit, oh, à toi de bien viser pour les prochains Jeux Olympiques. Comment il peut m'intégrer, moi, genre, aux Jeux Olympiques? Enfin, déjà, je suis rentré à l'INSEP, c'était un aboutissement de ma vie, quoi. C'était de sortir de complexe, compliqué scolairement, où j'en étais, etc. Il n'avait pas peur du tout de mettre les jeunes qu'il avait face à des objectifs incroyables et ensuite les convaincre que c'est possible. Donc en effet, il avait raison parce que je me suis qualifié pour les Jeux en 92 et j'aurais pu même faire une médaille déjà là-bas. Enfin, je suis un peu à travers ces premiers Jeux, mais néanmoins voilà, c'est un personnage moi qui m'a beaucoup marqué pour ça. Plus que le fait que ce soit un excellent entraîneur, hein, technicien, entraîneur, psychologue, mais c'est surtout quelqu'un pour moi qui m'a marqué parce que, et ce que souvent j'aime bien quand on parle de lui, c'est quelqu'un qui donne envie. Moi, il m'a donné envie. Il donnait envie de se surpasser, envie d'être toujours à 120% de ce que t'es capable, toujours être un optimiste total. La dernière anecdote, parce que quand je suis entré dans ces premières années, là où je faisais le mur à l'INSEP, il y avait un grand panneau gris. Enfin, noir, quoi, un tableau. Et il avait écrit à la craie, il mettait les séances d'entraînement dessus, mais surtout, il y avait une phrase qui était tout en haut, et c'était écrit, l'entraînement, c'est de l'entrain, entrain, entrain, éternellement. Autant dire, je savais pas ce que ça voulait dire quand je suis rentré à l'INSEP, mais c'était ça la réalité au quotidien de la vie à ses côtés, avec lui. C'était que tous les jours, c'était la vie doit être, on doit avoir un enthousiasme total pour être à 120%. Et du coup, on avait un groupe d'entraînement sur lequel c'était presque une philosophie de se dire on doit être positif, enthousiaste. En plus, c'est une discipline, la perche. Si on est un peu triste, ça marche pas. On peut pas faire déplacer ses perches, il se passe rien. Donc, c'était sa culture, quoi. Et après, on s'entraînait. Après, il y avait la technique. Après, il y avait tout. Mais s'il y avait pas ce truc essentiel, il y a rien qui se passe. Et moi, ça a été fondateur aussi dans tous mes projets de vie après, quoi. C'est sûr.
Bah écoute, tu lui fais un super bel hommage en tout cas, et c'est vrai que j'avais jamais mis effectivement le doigt dessus, peut-être sur d'autres sports, mais de voir à quel point c'est quand même un sport qui est vachement engagé, dans lequel où t'as besoin d'être de te sentir bien dans tes pompes, quoi, parce que tu vas monter très haut, il faut mettre un max de force, être tout gainé. Et...
ouais, il y a un engagement à l'impulsion qui est très fort, quoi. Pour ça, souvent dans les entraînements de haut niveau, on peut faire deux fois de la technique dans la semaine, parce qu'on peut pas être tous les jours dans cet état, prendre des grosses perches, foncer dedans, et comme je te disais, il faut avoir les épaules vers l'avant, et donc il faut avoir cette envie de le faire, cet enthousiasme, aller dedans, vers l'avant. Bon, ça, c'est un peu un message de vie. Si on a les épaules vers l'avant, quand on réalise quelque chose, souvent, ça se passe bien. Voilà, quoi. Donc, ensuite, derrière, il faut entretenir ça. Donc, quand on partait en stage, par exemple, on allait faire de temps en temps du saut en parachute, du sol élastique, du planeur, des choses un peu qui nous en, où on avait de l'engagement, quoi. Pas de risque, hein. Parce que les risques, on n'en prenait pas là. Parce que du coup, on entretenait ça aussi entre nous. Je te parie que t'es pas capable de sauter du toit de la maison ou de. Enfin voilà. On était en permanence en train de chercher ce truc pour s'engager, quoi. Et donc ça crée une ambiance qui était plutôt sympa. Alors tout en essayant de contrôler au maximum pour pas qu'il y ait de risque de blessure et tout. Mais voilà. Et ça, c'est un entretien de cette discipline. Pour ça, la philosophie de cette discipline, quand elle est faite de cette façon. C'est top.
Ouais, bah ouais, j'imagine. C'est une qualité que tu réutilises aujourd'hui, cet engagement, cet enthousiasme, cette motivation, tu vois, dans la voile, parce que tu vois, j'ai l'impression, alors dis-moi si je me trompe, mais que la course au large, c'est quand même en permanence régler des soucis, régler des problèmes. Il y a beaucoup, beaucoup de mécaniques, et que si tu n'as pas le moral et que si tu vois les problèmes comme des inconvénients et des obstacles plutôt que comme des jeux à résoudre, j'ai l'impression que tu t'en sors pas. Donc, c'est peut-être. Différent dans la pratique, mais dans la philosophie, j'ai l'impression que c'est très similaire.
Oui, c'est très différent, hein, t'as raison, parce que c'est extrêmement technologique dans tout, hein. C'est que de la technique partout, dans tout ce qu'on touche, dans tout ce qu'on fait. Mais en effet, si jamais t'es abattu, tu réalises rien, quoi. Donc, parfois, ça paraît pas insurmontable, mais tu dis, bon, il y a un dossier. Faut entretenir le fait d'être positif et pas se laisser submerger par des émotions, par de la fatigue, par plein de choses qui fait que on peut en effet être découragé et puis faire ensuite naviguer à 50% et dire bah tant pis, on fait ce qu'on peut et puis c'est comme ça. Alors après, il y en a parfois il faut être vaincu le temps de se reposer, hein, mais néanmoins il faut toujours trouver être sur une mais que ça soit à terre ou sur l'eau, faut toujours crocher dedans, quoi. Faut toujours en effet pas attendre que ça se passe. Il faut aller chercher les solutions, il faut aller chercher le moyen que le projet avance. Et pour ça, en effet, il faut se lever le matin en disant ouais, il faut être là aussi en effet, avoir de l'entrain, être enthousiaste sur le fait que ça va marcher. Et là, déjà, une grande partie est faite.
Je voulais peut-être juste terminer rapidement un peu le passage sur tes débuts dans la perche, notamment parce que tu as mentionné plusieurs fois que tu étais un enfant qui avait pas confiance en toi. Ou peut-être qui cherchait, qui avait du mal. On sent qu'effectivement, on va dire l'accompagnement de Maurice t'a beaucoup aidé. Mais moi, je t'ai toujours vu. Alors peut-être que je t'ai vu effectivement d'un œil de téléspectateur et de l'œil du gamin qui voit le champion. Mais je t'ai toujours vu, tu vois, dégager énormément de sérénité, de calme, et pas forcément, tu vois, du stress ou du manque de confiance. Et je voulais savoir si, hormis peut-être, tu vois, ce que naturellement vous proposiez dans le groupe d'entraînement avec Maurice, est-ce que toi c'est quelque chose que tu as travaillé, sur lequel tu as réfléchi, que tu as intellectualisé pour justement gagner en confiance et gagner en sérénité?
La confiance, elle se gagne tout doucement, étape par étape, c'est des petits challenges par petits challenges. C'est la perche, c'est un sport où il y a une barre, on a son destin devant les yeux, il est écrit, c'est symbolisé par la barre comme son hauteur. Quand on est à son record, on sait qu'on va tenter son record, on sait que c'est ça qui nous attend. Alors psychologiquement, ça veut dire qu'il faut se mettre dans un état de grande sérénité, parce que si on est plein de... on en fout partout, on maîtrise que dalle, et c'est une discipline où il y a beaucoup de choses à penser, à caler, il faut respecter des temps, de la vitesse, il y a plein de choses en l'air sur lesquelles c'est que des sensations, et c'est un sport d'intention même, plus de sensations, c'est-à-dire qu'il faut travailler beaucoup avec ses émotions, avec son intention, parce que visuellement, ça va trop vite, on voit plus rien, donc faut le sentir, c'est l'engagement qui fait qu'un saut va être bon ou pas, etc. Donc du coup, il faut quand même trouver cette pause, cette posture de je souffle, je me concentre, avant de partir, je réfléchis à ce que je vais faire. Donc ça m'a beaucoup canalisé, bien sûr, ça m'a énormément canalisé l'approche de cette discipline, mais naturellement, quoi. Sinon, si on ne fait pas ça, on se prend un taquet, on se prend la perche dans la tronche, on prend une gamelle, on se fait mal. Donc, vraiment, on le fait une ou deux fois, après, ça canalise tout seul.
Ça se travaille, justement, cette capacité à se mettre dans la bulle?
Je crois que c'est la discipline qui donne ça. Et chacun ses mimiques, chacun sa concentration avant. Après, au début, quand on est petit, peut-être on en fout partout et on se prend des taquets, on se prend des gamelles. Hein. C'est un sport où on chute tout le temps, donc il vaut mieux chuter sur la mousse. Mais moi, j'entraîne en ce moment pas mal. Et c'est ça, quoi. On apprend aux petits à se canaliser dans la... avant de partir, de réfléchir à un ou deux trucs qu'ils vont essayer de chercher, quoi. C'est pas naturel, quoi. Quand on est petit, on a envie de s'éclater. Donc, c'est pour ça aussi que quand on est sur une séance technique, on peut pas la faire trop longue, surtout sur les petits. Et qu'une fois qu'on a fini une séance technique, souvent on peut faire une autre séance, une séance de sprint ou de musculation, parce que l'engagement psychologique et émotionnel et physique aussi, mais typiquement sur la perche, fait qu'il faut être à 100%, faut donner beaucoup de choses. Et ensuite, on peut faire du sprint, on peut faire plein d'autres choses qui demandent moins, quoi. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire tous les jours. Et on ne peut pas faire tous les jours à fond, à 100%. On peut faire un petit travail technique, etc. Mais, et donc, cet engagement-là, dans la discipline, il est super important. Et une séance... moi, je sais que, pour répondre à ta question, quand je faisais des compétitions, donc j'avais canalisé beaucoup cette énergie parce que j'avais pas le choix, quoi. Et à la fois, après les concours... Tu sais, les enfants viennent demander des autographes. Et pendant une demi-heure, je pouvais pas prendre un stylo. Je tremblais, quoi. J'étais comme ça sur la feuille de papier. Fallait que je me pose, quoi. Et tout ça, ça pèse, quoi. Voilà. Enfin, pour en donner une autre explication, tu vois, à l'entraînement, les perches que j'utilisais en compétition, c'était des perches que j'osais même pas sortir à l'entraînement. À l'entraînement, elles me faisaient peur. Je les sortais, je les regardais, je dis, oh la vache, c'est quoi ces trucs? Jamais ça va fléchir, jamais j'arriverai à tomber sur le sautoir, je vais retomber d'où je suis parti. Enfin, ça me paraissait des mâts de bateau, du coup. Et quand j'arrivais en compétition, j'étais dans cette telle bulle et engagement, je les sortais de l'étui, je rentrais dedans, ça pliait, ça me renvoyait. Voilà, donc c'est vraiment pour expliquer que oui, il faut apprendre à se mettre dans cet état. On apprend et c'est aussi lié à sa personnalité. Il y a des gens qui sont aussi forts à l'entraînement qu'en compétition, qui dégagent pas, leur émotion est stable. Et puis inversement, il y en a qui sont plus forts à l'entraînement qu'en compétition. Enfin, c'est aussi lié à sa personnalité, à son histoire, etc. Donc voilà, il faut s'adapter à ses qualités. Il n'y a pas vraiment de règle en réalité, mais simplement si. La règle, c'est que quand on est en compétition en bout de piste, là, il faut être avoir une maîtrise du geste technique, émotionnel, qui est super importante.
Ouais, finalement, peu importe comment on est dans le quotidien, ce qui compte, c'est le jour J et être capable de se mettre dans cet état, quoi.
Et ça, pourquoi on est là, quoi. Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on se met dans cet inconfort psychologique quelque part, quoi.
Et toi, pourquoi tu faisais ça?
Ah ben moi, j'ai su depuis le début. Hein. Tu sais, c'était de la survie. C'était un besoin d'exister, d'être, je sais pas, psychologue, d'être aimé, je sais pas comment on dit. Mais c'était une façon de trouver ma place, quoi, pour ma place et de montrer que je pouvais être le meilleur au monde aux autres, mais moi que je pouvais être me surpasser, quoi, et être plus que le dernier peut-être de la classe. Qui a été à un moment donné mal dans sa peau, voilà. Donc c'était une façon pour moi de trouver ma place, tout simplement. Je sais pas où, comment. Je pensais jamais à ça, mais avec du recul, je sais bien que c'était un peu, ça a été un petit peu ma motivation, c'est de moyen d'exister. Et d'ailleurs, je me rappelle une fois, je m'étais trompé puisque je voulais mettre de la hargne, de la rage. Alors j'avais appelé un photographe. Un ami photographe qui est décédé il y a pas longtemps d'ailleurs, Jean-Pierre Durand, qui faisait les magnifiques photos de très haut niveau. J'avais demandé qu'il m'envoie les cinq photos de mes cinq adversaires directs de l'époque. Donc, souvent, c'est des Russes, Américains. Et je m'étais dit, je veux les voir tous les matins au petit déjeuner. Donc, je m'étais fait un tableau, je l'avais collé sur le mur. Et dès que je me levais le matin, je les regardais en prenant mon petit déj avant d'aller à l'entraînement en me disant, je vais les tordre, quoi. Et puis, en fait, ça marchait pas du tout avec moi, ça. C'était pas du tout ma personnalité. J'avais aucune rage et hargne et envers les autres, pas du tout, quoi. C'était je me trompais, du coup je m'excitais tout seul et en fait j'ai enlevé tout ça. J'ai dit non, mon moteur c'est pas celui-là, quoi, c'est pas ça. D'autres ça aurait pu être, hein. Moi c'était pas ça, c'était par rapport à je pense à moi, au fait de me sentir plus grand, me sentir de mieux en mieux dans cette existence. Voilà, ça m'apportait ça, ce sport de, enfin la perche en tout cas. Et résultat, ouais, c'est pas facile de trouver la raison pour laquelle on se met dans cette certaine inconfort psychologique, parce que se retrouver dans des stades avec 50, 60 000 personnes, un enjeu olympique, un enjeu de médaille championnat du monde, c'est difficile. Le regard des autres, le jugement en plus de la, à un moment donné, des médias, puisqu'on a attendu. Tout ça est pas très confortable, il y a la pression, la fameuse pression, quoi. Mais quand on sait pourquoi on y va, bah, ça passe, quoi. Pour qui, pourquoi, voilà. Et je crois que c'est la grande question de tout le sportif de haut niveau qui, à un moment donné, doit se le poser. c'est souvent assez naturel, hein. Au début, tout va bien. Puis à un moment donné, il faut savoir pourquoi on est là. Et chacun son histoire. Voilà.
Bien sûr. Je suis d'accord. Et puis même, pour élargir encore, je pense que tout être humain a besoin de connaître un petit peu sa mission de vie, ce pourquoi il se lève le matin. Et c'est sûr que pour un sportif de haut niveau, il a besoin de performer, donc il a besoin de trouver une raison d'être. Mais n'importe quel citoyen a aussi besoin de trouver sa raison d'être pour être plus épanoui et plus heureux.
Ouais, mais je pense que chacun sa vie. Tu vois, je sautais beaucoup à l'époque. Il y avait beaucoup qui venaient du bloc soviétique. Et ben, quand moi, ils m'expliquaient que gagner 500 dollars sur une compète qu'ils gagnent, et ben, ça fait vivre leur famille. Bah, tu dis, bah ouais, c'est sûr, quoi. C'est pas, enfin, tu peux comprendre facilement, du coup, la motivation. Tu vois, par exemple, à un moment donné, je me rappelle j'étais contemporain à un moment donné avec Romain Ménil, qui était un des plus meilleurs perchistes qu'on ait connu, qui était un très grand talent, 5,95. Et les premières compétitions internationales qu'il faisait, parfois, il passait un peu à travers. Et puis un jour, il a été papa. Mais lui, c'était un garçon d'une gentillesse absolue, très équilibré dans sa vie. Du coup, pas de souffrance particulière. Il a une belle éducation. Enfin, tout allait bien. Il n'est pas dernier de la classe. Pour lui, la perche, c'était une discipline fun. Hyper fun, super sympa. Et quand il y a eu commencé à avoir cet enjeu un peu lourd, il a parfois c'était compliqué. Et à un moment donné, il est devenu papa. Et le fait d'être papa, a trouvé cette responsabilité, a trouvé un engagement dans son comportement en compétition, qui fait que ça a été le jour et la nuit. Après, il a été deux fois vice-champion du monde. Alors moi, je me permets d'en parler parce que c'est lui qui en parle dans un livre, et je trouvais que c'est super intéressant que chacun peut trouver sa voie. Il n'y a pas besoin d'être en effet avoir vécu dans le goulag au fond de la Russie, et puis chacun sa motivation quelque part pour faire du haut niveau. Mais comme tu dis exactement, je pense que c'est dans la vie tout court en réalité.
Bah écoute, je le lirai. Je savais pas du tout que Romain avait écrit un livre, mais c'est vrai que c'est une personnalité attachante, je trouve, et dégageait beaucoup de d'humilité, et c'est vrai que c'était quelqu'un qui était assez agréable à voir, en tout cas en tant qu'athlète, et assez inspirant. Et j'avais beaucoup aimé, alors je sais pas si tu te souviens, mais il me semble qu'il avait fait une campagne de pub pour je sais plus quel jeu, dans lequel il se mettait en scène lui tout nu, et il disait ouais, les athlètes sont à poil et on est très peu aidés financièrement, et j'avais bien aimé le message, quoi.
Ouais, là j'étais pas certain de son choix là, mais bon, écoute, il l'a fait en tout cas, il a marqué les esprits, et puis il a pu faire passer un message, et mieux, trouver un partenaire qui lui a permis de continuer sa carrière aussi, hein. Mais bon, voilà.
On va dire objectif.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Objectif réussi pour lui via cette action, mais ok. Tu as mentionné que tu t'entraînais des enfants, et effectivement, je vois un petit reportage où on te voit sur la piste et en coacher certains. Tu penses que très jeune, c'est bon de leur poser la question de pourquoi ils sautent, pourquoi est-ce qu'ils ont envie de faire ce sport, ou faut tout orienter sur le plaisir et sur la découverte de soi?
Ouais, bien sûr, non, faut. Quand t'es petit au début, c'est une récréation. Enfin, surtout, comme je t'expliquais, la perche, enfin, faut même presque leur dire que c'est pas un sport, quoi. Moi, c'est ce qu'elle me dit, ma fille. Ma fille, elle a 8 ans, elle fait de la perche, elle vient avec moi depuis petit, et comme mon fils, mais il commence, lui. Et elle a toujours pris une perche, et elle, à côté de ça, elle dit non, c'est pas du sport, ça. Elle fait de la danse, elle fait d'autres trucs. Mais, et pourtant, elle saute super bien, et à son âge, déjà, je l'emmène faire des petites compétitions, elle n'est pas encore classée, qu'elle est trop petite, ça n'a pas de catégorie pour son âge. Mais non, c'est un jeu, quoi. C'est un jeu. Et après, ils se poseront des questions pour affronter la difficulté de la pression quand ça commence à être désagréable. Parce que ça peut être fun longtemps, hein, comme Romain, puis en vrai, c'est plus fun. Pourquoi je fais ça? Et c'est à ce moment-là qu'il faut être assez mature et grand pour se poser des questions. Non, au début, c'est que du plaisir. Moi, ce que j'ai, avec l'éducation que j'ai eue avec Maurice, sur un stade, je parle que d'intention. Hein. La technique, elle est en second plan. Je parle beaucoup, beaucoup d'intention. Et pour donner ce peps, de la vie à tout ce qu'on fait, beaucoup d'enthousiasme dans tout ça, et créer une ambiance, quoi. Et puis après, une fois que ça prend, on peaufine. Mais bien sûr, les gamins, il faut surtout aller à leur rythme. Hein. Alors, surtout quand on les prend petits, il faut aller à leur rythme. Il y a des jours, il n'y a pas perche, hein. On joue sur le sautoir, ils font des sauts périlleux, de la gym, ils se font de la corde, ils se lancent dans le vide, ils font un foot. Et pour moi, c'est une des meilleures séances qui existent.
Ouais, justement, c'est quand tu fais tout sauf de la perche, quoi.
Bah ouais. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, un entretien, l'enthousiasme. L'enthousiasme est notre seule vertu, quoi, tu vois. Donc, il faut vraiment entretenir ça pour que ça fonctionne derrière.
Bah écoute, très belle valeur. Et écoute, je me le note en gros parce que ça me parle beaucoup en ce moment. L'enthousiasme est notre seule vertu. Je vais te dire pourquoi. C'est parce que je suis en train de me reconvertir là. Je suis en train de quitter un job que j'avais depuis plusieurs années et dans lequel ça marchait super bien pour moi. Et on m'a dit, écoute, récemment, notamment avec ce podcast, on me dit, ça plaît aux gens. Les athlètes passent un bon moment. Il commence à y avoir une très belle audience dessus. Vas-y à fond. Et j'avais beaucoup de peur en fait. Je manquais d'enthousiasme. Je me disais, bah oui, bon, c'est mon petit truc, c'est fait en vidéo, j'ai pas le temps de me déplacer pour aller rencontrer tout le monde, c'est difficile de trouver des partenaires et j'ai manqué d'enthousiasme, quoi. Et là, je viens de switcher le pas, tu vois, en me disant, c'est bon, j'ai ma carte à jouer, il y a Paris 2024 en plus, enfin, tu vois, j'ai aucun doute à avoir. Mais ça m'amène, tu vois, à un sujet un des sujets avec lesquels, sur lesquels je voulais discuter avec toi, c'était cette reconversion. Tu vois, on peut parler de très belles années que tu as eues. Je pense qu'on a déjà beaucoup parlé et puis aussi un petit peu de la fin qui a été un peu plus compliquée avec des blessures. Mais moi, j'aimerais savoir, parce que je ne l'ai pas trouvé, comment est-ce que tu es tombé dans la voile? Qu'est-ce qui t'a tenté dans ce sport-là? Qu'est-ce qui t'y a fait y croire, surtout, que tu pourrais devenir skipper professionnel, quoi? Bon, c'est une longue aventure, j'imagine, mais j'aimerais bien l'entendre de ta voix.
Moi, j'étais passionné du monde de la mer et des bateaux. Dans ma famille, j'avais mon grand-père était un marine, était sur les porte-avions. Enfin, donc c'était les histoires de voyage et de mer. J'entendais parler. J'avais également ma famille est à moitié bretonne, donc on avait pas mal d'amis marins pêcheurs. Donc les histoires, une fois encore, de bateaux, de mer, de pêche, ça a un peu bercé toujours mon enfance. On faisait pas de voile, quoi. Par contre, vite, je me suis tombé dans les romans d'aventure de navigateur, parce que étant attiré par cet univers, je suis tombé sur des livres comme de Bernard Moitessier, puis surtout bref, et les Jules Verne et les Tabarly et tous les gens qui ont marqué un peu les premières épopées de voile. Et cherche son nom. C'est important parce qu'il faut me dire que ça va essayer d'expliquer plein de choses. Et puis d'ailleurs, c'est un livre que je te conseille du coup. Ça va me revenir, hein, on en reparlera. Ouais, il y avait des choses qui existaient. À chaque fois, c'était des épopées maritimes et des aventures qui racontaient que bah il faut se lancer, quoi. Il faut se lancer. Que les histoires de destin là, tout ça, c'est bien beau, mais c'est pas la réalité, quoi. C'est à toi de t'écrire ta vie, quoi. Et dans la mesure en plus où moi, dans une première vie de pêche, si j'avais pas écrit mon histoire, si j'avais pas cru que je pouvais aussi devenir un champion un jour, j'aurais jamais fait ça, quoi. Donc quand j'ai commencé à naviguer, en fait, c'est aussi parce que j'ai rencontré des copains qui étaient sur la Coupe de l'Amérique, enfin surtout un ami, Franck, et lui, il s'est lancé athlète, il était parti là-bas, et à chaque fois j'adorais qu'il me raconte ce qu'il faisait, c'était je trouve ça génial. Et donc un jour il m'a appelé, il m'a dit, écoute, voilà, j'ai été contacté pour repostuler pour le prochain syndicat de la Coupe d'Amérique avec, je crois que c'était les Suisses. Moi, c'est fini, mais par contre, toi, t'es en fin de carrière. J'étais en train de galérer avec des blessures. Et donc, il m'a branché dessus. Et donc, j'ai rencontré d'autres skippers et marins dans cet univers. Et puis, mon profil les a intéressés parce que sur des postes, sur les gros, gros bateaux, il y a des postes très physiques. En gros, il faut tourner les manivelles vite et longtemps et en même temps sortir les voiles des soutes. Et en même temps, ils avaient une idée d'intégrer beaucoup plus la préparation physique des équipages. Parce que c'était de plus en plus physique à bord.
Mais t'avais aucune expérience de voile à ce moment-là, quoi.
Je naviguais en plaisance.
Très peu.
Je faisais de la plaisance. J'avais des abonnements à tous les magazines, voiles et voiliers, bateaux et tout. Donc, je croyais que je naviguais, que je savais faire, mais en fait, je connaissais rien. C'était du virtuel. Et bref. Et donc, j'ai commencé, il y a une équipe française, Cachalange, qui m'a demandé de faire un essai. Et donc je suis parti, j'étais encore athlète, hein, je suis parti naviguer 15 jours à tourner les manivelles, c'était le bagne, j'avais des ampoules plein les mains, et puis en fin de compte, après les 15 jours, ils m'ont dit, non, tu percutes vachement vite, sur le poste qu'on t'a demandé, ça se passe super bien, tu vas apprendre de mieux en mieux, évidemment, au début, c'est pas facile, mais la préparation physique, ça se passe super bien avec l'équipage, ça, on a vraiment besoin de ça, donc ils m'ont proposé un boulot, donc pendant 2 ans, en Espagne, commencer à naviguer sur la Coupe de l'Amérique, et j'ai appris comme ça, sur des postes sur des postes très spécifiques, hein. Et c'était passionnant parce que j'ai appris plein d'autres choses que simplement faire du bateau. Je vous dis, moi, j'ai jamais pris la barre, j'ai jamais réglé une voile, je faisais sur les côtés de base, sur le, enfin, techniquement, quoi. Et puis ensuite, par contre, la préparation physique à terre, c'était génial, etc. Donc, j'ai beaucoup appris. Et quand je suis sorti de cette ambiance, là, enfin, de cette expérience de 2 ans en Espagne, hein, j'ai monté un projet de course au large. Parce que, en fait, dans l'équipe, il y avait plein de marins qui venaient de la course au large. Et moi, ça me faisait rêver, la course au large. J'avais jamais fait, mais ils me disaient, vas-y, bah, lance-toi, c'est pas si compliqué. C'est la Transat à G2R. Et dans l'équipage, il y avait un garçon, Gilles, là, qui ça le motive aussi. Donc, on a monté un projet tous les deux de Transat à G2R. On est parti traverser l'Atlantique. Alors moi, j'avais trois mois d'expérience sur le bateau en Figaro, hein, donc je connaissais rien du tout. Et j'étais paumé sur le bateau parce que parce que là, d'un coup, il fallait savoir barrer, fallait régler des voiles, vivre à bord dans un environnement comme qui est pas confortable, un peu humide, et etc., etc. Donc j'ai manqué beaucoup de formation là-dessus, et du coup on s'est arrêté aux Canaries. Ça a pas marché, c'était un échec, hein. Et quand je suis sorti de cette expérience, c'était un peu dur parce que là à nouveau je retrouvais des similitudes avec le début de carrière, en me disant j'étais un imposteur, manque de confiance. Donc, qu'est-ce que j'ai foutu là, j'ai trouvé un sponsor, c'est facile pour moi, mais en fin de compte je suis nul, enfin bref, gros questionnement. Puis en fait, plutôt de me dire allez, on passe à autre chose, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Moi, j'aime profondément cet univers, les bateaux, la mer. Je peux pas arrêter comme ça. Donc, du coup, j'ai commencé à naviguer. J'ai tapé aux portes de plein de monde. J'ai navigué sur des vieux gréements, sur les Pendwick. J'ai navigué sur les bateaux. Enfin, on m'a invité à naviguer sur les trimarans, sur des gros monocoques, etc., etc. Donc, j'ai refait. Et puis, jusqu'au jour, on m'a aussi invité à naviguer sur les 40 pieds, les classes 40. Et donc, ça a pris 2-3 ans, quoi. Hein. Donc, puis au bout de la 3e, 4e année, je me dis, OK, je lance mon propre projet. J'ai fabriqué mon bateau que j'ai d'abord mis en location et puis avec moi à bord pour finir ma formation. Et puis ensuite, j'ai récupéré et c'était parti pour monter mes propres projets. Mais oui, il y a une phase bien compliquée où il a fallu pas abandonner, quoi. Surtout, je me dis, mais je peux pas, par respect pour ce que j'aime, dire première grosse difficulté, j'arrête, terminé, on passe à autre chose, quoi. Je suis pas allé jusqu'au bout de ce que je pouvais faire. Au bout de ce que j'aurais eu un peu honte, ça aurait été encore pire comme message pour moi, quoi, de dire super, t'abandonnes une part à la course et en même temps t'abandonnes ce projet, quoi, c'est encore pire. Donc voilà, c'est un peu le dire, ok, j'ai pris une claque, mais je vais me relever et j'irai jusqu'au bout de ce que je peux faire. Voilà. C'est un peu ça l'idée.
Ouais, génial. Et peut-être juste pour revenir sur cette période justement où tu vas taper à la porte de tout le monde pour essayer d'aller naviguer avec eux, c'est quoi, tu fais des transats à ce moment-là, tu contactes tes copains qui veulent naviguer un peu et tu leur dis, est-ce que vous voulez pas une petite main sur le bateau en plus pour vous filer un coup de main, c'est ça?
Oui, c'est ça. En fait, dès que j'ai rencontré des copains qui naviguaient, dans la conversation, ils me proposaient de naviguer avec eux. Donc, c'était souvent la journée ou 2 jours, des convoyages de bateaux, c'était des choses comme ça. Et puis le fait que c'est un milieu plutôt sympa et avec des marins qui sont plutôt cool et qui voyaient bien que ma démarche n'était pas faire de la com, quoi. C'était vraiment, j'avais envie de faire du bateau. Donc j'ai été naturellement invité sur pas mal de bateaux. Donc ça, c'était le côté sympa du milieu, qui est des gens intelligents et qui sont pas dans le... Voilà, c'est simple, quoi. C'est simple. Tu montes ton bateau en bonne intention et que tu te la racontes pas, les portes s'ouvrent.
Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord. La voile est un milieu globalement sain, tu vois, dans lequel les gens sont très généreux, très passionnés et t'ouvrent vite les portes si tu montres de la sincérité et que t'as envie de progresser aussi. Donc ça, c'est plutôt chouette, ouais, c'est vrai. Et c'est dur de passer un peu l'étape de dire, OK, bah, il faut trouver un sponsor, faut monter un projet, faire fabriquer un bateau. Tu disais que tu avais fait fabriquer un bateau, mais que tu étais encore dessus. Tu le faisais en tant que skipper pour louer pour d'autres. C'était comment?
L'histoire, c'est que après cette période où j'essaie d'apprendre et d'intégrer une sorte de culture de navigation, en commençant un peu tardivement, il manquait beaucoup beaucoup de choses. Malgré tout, c'était pas une activité professionnelle. Je faisais ça en plus, le plus possible. Mais et à côté de ça, il y avait à l'époque, c'était Areva qui avait été le partenaire du bateau de la Coupe de l'América et qui ensuite est arrivé dans l'athlétisme. Et donc, ils sont arrivés dans l'athlétisme et ils y connaissaient rien du tout. Donc, ils m'ont appelé parce que du coup, je les connaissais. Ils m'ont dit, voilà, on monte un service marketing pour l'athlète. On va reprendre le gros meeting de Paris, plus le partenariat avec la fédération, etc. Et on a besoin, est-ce que tu veux bien être nous conseiller, quoi, intégrer le service et être service marketing. On s'est dit, bah ouais, c'est intéressant. Ça parle de, c'est très bien, super passerelle. Et donc, j'avais un bureau à la 32e étage de la tour Areva à la Défense. Et ça a duré 6 mois et j'étais en train de dépérir, quoi. Même si les gens étaient super gentils, il y avait l'équipe, une machine à café, on parlait athlétisme, mais sauf que bah c'était, j'étais enfermé, j'étais comme à l'école, quoi. Au début, ça allait pas avant, bah. Et du coup, j'avais des posters de bateaux partout dans mon bureau, mais ça allait pas, et c'est pour ça que je me suis réveillé un jour en me disant, j'ai une promotion, on m'a demandé si je voulais continuer avec un autre poste, machin, et donc je lui ai dit stop, on arrête tout, et j'ai appelé le chantier que j'avais choisi, qui proposait un bateau neuf, un moule neuf sur les bateaux, sur les classes 40, et je les ai appelés pour fabriquer un bateau, savoir comment on faisait. Du coup, j'ai vendu mon appartement que j'avais à Paris pour fabriquer ce bateau-là. Et donc, je suis parti habiter en Bretagne. Et ce bateau, je l'ai mis en location donc à Nicolas Troussel. C'est pour ça que je l'ai avec moi à bord. Je disais, en plus, je te le loue pas trop cher, mais avec moi à bord jusqu'au départ de la route du Rhum. Et donc, j'ai été un peu en formation avec Nicolas pendant plusieurs mois. Et ça a démarré comme ça, quoi.
Ok, d'accord. Ah ouais. Donc, même financièrement, t'as dû te débrouiller pour joindre les deux bouts parce que c'est pas si facile, quoi.
Non, j'avais pas de sponsor au début. J'avais pas de sponsor du tout. Et c'est après que j'ai trouvé un petit sponsor qui m'a permis d'exister, hein, qui était parce que j'ai ouvert plein de portes avec mon nom. Il y a plein de portes qui sont ouvertes, j'ai eu plein de rendez-vous, mais à chaque fois les gens, et ils avaient raison, ils disaient, bah, écoute, c'est bien gentil, mais en réalité il faut quand même faire ses preuves parce que c'est un sport mécanique, et si tu te plantes, bah ça va pas être bon pour la com non plus, quoi. Donc du coup ils avaient raison. Donc malgré tout, j'ai trouvé ce petit partenaire. À l'époque c'était les Airman, et donc j'ai pu faire quelques petites courses Atlantique, enfin pas de transat, hein, des courses en équipage, en double, ce qui m'a beaucoup apporté. Et puis jusqu'au jour où j'ai voulu préparer la route du Rhum en 2014, et donc en 2013, et j'arrivais pas. J'ai pas de partenaire, rien, et pourtant je me dis, merde, pourtant j'ai navigué, j'ai fait mes preuves, j'avais fait une transat avec Tanguy de la Mode jusqu'au Mexique. Il y avait des choses qui se construisaient quand même, et c'était comme ça, c'était la vie. En plus, c'était un peu plus difficile qu'aujourd'hui de trouver des partenaires à l'époque, parce que c'était encore un peu la crise là dans la voile. Et puis j'ai eu cette chance de rencontrer Marc Lebras de chez Serenis. En fait, je participais à un stage d'entraînement pour l'athlétisme avec les anciens qui venaient voir les jeunes. Et j'étais à Saint-Malo, et il y a un article qui est sorti parce qu'il y avait la presse qui était là. Et en fait, c'est écrit que je cherchais encore des sous et que j'avais pas un partenaire pour la Route du Rhum. Et Marc Lebras est tombé sur cet article. Il m'a appelé. Il me dit, moi, ça peut peut-être m'intéresser. Je suis une petite boîte à Rennes, mais on a besoin un peu de sortir du lot d'un milieu qui est pas très glamour. On parle beaucoup de chiffres, de calculs, etc. Donc du coup, peut-être donc on a commencé notre partenariat comme ça, et j'ai pu faire en 2014 la Route du Rhum avec grâce à Marc Lebras et à Serenis Consulting, et c'est encore mon sponsor et unique sponsor aujourd'hui. Donc ça, c'est une belle histoire aussi dans l'évolution de mon projet. Peut-être ça aurait pu s'arrêter là en 2013, hein, puisque le bateau était en vente, en location, enfin bon, je trouvais pas, quoi. C'était difficile de trouver des partenariats. Après, c'était peut-être pas la bonne période, mais normalement, je suis super content d'être tombé sur Marc et Serenis, parce que partenariat idéal, tous les gens chez Serenis sont d'une gentillesse absolue, c'est pas une grosse boîte, et ça se passe très très bien, quoi.
Ouais, bah ouais, tu fais bien de leur rendre hommage. Et lui, qu'est-ce qu'il y trouve, si tu veux, c'est en termes de marque, c'est pour avoir une meilleure marque employeur et recruter d'autres salariés, c'est pour engager ses propres salariés autour d'un projet un peu autre, un peu commun, c'est une passion que lui, il a, parce que j'imagine qu'il navigue aussi, c'est comment ça s'articule un peu?
Alors, Marc naviguait pas du tout, il connaissait rien au sponsoring sportif. Rien à la voile, et sauf il me connaissait moi. Et il s'est dit, c'est peut-être une opportunité, parce que d'associer Serenis, ce qu'il avait imaginé à l'époque, avec moi, pour en effet sortir, montrer qu'il avait un pied dans le monde du sport. Bon, là, du coup, là, c'était les bateaux. Mais en gros, si j'avais proposé peut-être une expédition au pôle Nord, peut-être ça aurait pu lui plaire aussi, dans la mesure où c'était vraiment comment sortir, se dénoter par rapport à ses concurrents. Parce que donc Serenis font de l'optimisation sur la taxe foncière. Donc, c'est des études de dossiers sur des boîtes qui veulent mieux calculer leurs taxes foncières et avec des abattements, avec plein de choses qu'on peut récupérer, parce que c'est un cycle, c'est un peu compliqué. Donc ils font de l'accompagnement d'entreprise. C'est pas très glamour parce que c'est des chiffres, quoi, tout simplement. C'est une chose très ils vendent du chiffre et de l'analyse et quelque chose. Donc il avait besoin de sortir un peu de peut-être de la concurrence comme ça. Et c'était ça son objectif principal. Et puis après, c'était fait partie des gens, comme je t'en parlais, qui et c'était ma chance de dire on y va, on fonce. On essaye, et puis après, il avait beaucoup d'enthousiasme pour se lancer dans ce projet, et ça a permis, d'après lui, de doubler la boîte, de vraiment lui ouvrir les portes sur plein de choses, et derrière, maintenant, devenir passionné, en effet, de la voile, de faire venir beaucoup de clients sur le départ de la route du Rhum, principalement, et d'être devenu un acteur très important dans le monde de course au large, parce qu'il a sponsorisé aussi de la voile, les filles du 4-7 qui ont fait des médailles olympiques à Rio.
Camille et Aloïse.
Exactement, ouais. Et puis, aujourd'hui, on a un bateau neuf au nom de Serenis, qui fait partie des meilleurs bateaux de la flotte, qui est une référence. On avait fait du Diam 24 avant. Donc, et moi, je suis assez fier, parce que c'était pas un sponsor qui était dans la voile avant. Et donc, j'ai réussi à le faire venir. Et fait partie des marques fortes du monde de la course au large aujourd'hui. Et en même temps, pour sa boîte, lui, il me dit, il est super content, les messages sont forts. C'est en plus d'avoir un fil rouge pour sa société qui, moi souvent, je vais les voir régulièrement et c'est toujours, c'est sympa, c'est très familial quoi, en plus.
Ouais. Bon, écoute, c'est cool, félicitations. Et puis ça a l'air d'être une belle histoire, donc tant mieux, et une histoire qui dure, donc c'est la preuve que ça marche plutôt bien. Et c'est chouette de ta part là, d'avoir ramené effectivement quelqu'un qui n'était pas sensible forcément à la course au large dans ce milieu-là, parce que c'est un milieu qui est fascinant et dans lequel les histoires sont. Donc, écoute, bravo à toi. Là, tu prépares une route du Rhum, mais quel est ton rêve, toi, en tant que marin? Qu'est-ce que tu as envie de faire, hormis la course, la compétition? Est-ce que il y a y a quelque chose qui te tente un peu plus?
Déjà, remporter la route du Rhum, tu vois, ça serait quand même un truc incroyable. Ça, c'est un rêve. Voilà. Après, moi, je me verrais bien faire une belle balade prendre quelques mois pour partir en famille, découvrir le monde. Alors peut-être pas faire un tour du monde, mais aller dans des endroits en famille, en bateau, avec plein d'escales. Et je trouve que c'est une chance absolue quand on sait faire ça et quand là aussi il faut se lancer. Je pense pour les petits ici, je suis en train d'essayer de réfléchir comment partir.
Ok, tu connais un peu l'histoire de Alan Roura ou pas?
Oui, bien sûr, je connais bien Alan parce qu'il était en classe 40 avant avec moi et je connais pas bien son histoire, mais je sais en effet qu'il était issu d'une famille de marins qui vagabondait les mers. Et c'est un peu son histoire.
Ouais, j'ai eu la chance de l'interviewer et puis il m'a raconté tout ça et moi surtout il m'a ouvert les yeux sur l'école à distance quoi et sur le fait que au final c'est pas parce qu'il a jamais mis les pieds dans une classe que il est pas capable aujourd'hui, tu vois, de gérer une petite boîte, parce que finalement, gérer un bateau qui part sur le Vendée Globe, c'est une entreprise, quoi. C'est aller chercher des fonds, c'est des employés, c'est des gens qui bossent pour toi, qui te fabriquent le bateau, c'est plein de partenaires et tout. Et au final, lui, il fait ça hyper jeune, et il s'en sort très bien, donc ça montre que c'est possible, quoi.
Non, mais on est bien d'accord, l'école apprend pas tout et loin de là, quoi. Après, ça apprend des choses socialement qui sont très importantes, ça donne des bases, mais on peut les avoir autrement, il y en a qui le font très bien. Donc, non, bien sûr, moi, je fais partie des gens qui revendiquent pas que notre système scolaire est le plus merveilleux et bien adapté, hein. Il y a d'autres façons de faire, c'est sûr.
Bon, on est d'accord. Donc, je serais pas étonné de voir si un jour je lis dans un journal breton que t'es parti faire une petite vadrouille pendant.
Ça, c'est possible. Ouais.
C'est tout ce que je te souhaite, vraiment, vraiment, ça serait cool. Et peut-être, tu vois, si on parle un petit peu performance aujourd'hui, selon toi, quels sont un peu les avantages d'être un ancien sportif de haut niveau, d'être un ancien champion olympique quand on s'élance sur une Transat Jacques Vabre ou sur une route du Rhum? Alors peut-être que tu as un désavantage qui est le temps, parce que tu as commencé un petit peu plus tard et effectivement, la course au large, c'est quand même une vraie histoire d'expérience, ça j'en doute pas. Mais quels sont les avantages, tu vois, d'avoir eu une carrière sportive avant ça?
Non, bien sûr, il y a des choses. Le manque d'expérience, il est évident. Avec le temps, j'ai essayé de boucher les trous, mais malgré tout, c'est mon point faible. Mais après, derrière, je pense que dès qu'on veut faire du haut niveau, il y a des choses qui s'articulent de la même façon, c'est-à-dire dans l'organisation, dans la patience aussi. Il faut être très patient. Il faut pas brûler les étapes. Et je crois que moi, enfin, en plus, sur un bateau, on sait que c'est important. Puis après, ça allait à son, enfin, pas brûler les étapes, il allait à son rythme. Voilà. Il y en a qui vont plus vite que d'autres. C'est ainsi. C'est la vie. Si on est à côté de la plaque et les choses se font avec du temps, quoi. Voilà. Sur l'eau, sur la mer, et chacun a sa notion de temps qui est différente. Ça, je veux dire. Et derrière, ma carrière d'athlète aussi, ce qui m'a beaucoup servi, c'est gérer le stress. Gérer le stress, bah, on en a parlé tout à l'heure, là, canaliser ce stress, canaliser cette envie, là. Parce que quand, sur un bateau, ça se passe mal, quand c'est, en effet, il y a souvent des petites merdes à gérer, quand c'est des merdes un peu plus importantes qui remettent en cause ton état de santé, t'as des grosses galères ensuite, etc. Donc, il faut partir du principe que tout a une solution, mais elle commence par poser, avoir la capacité à y réfléchir et à se poser dessus. Donc ça, je retrouve un peu parfois cette gestion du stress que j'ai pu rencontrer dans ma première vie où ça, c'était aussi important de se poser, de se calmer quand il y avait des blessures, de prendre le temps, etc. Même si on veut toujours aller plus vite que la musique, bien sûr. Donc là, c'est les gros points communs. Après, physiquement, dans les attitudes, ça n'a plus rien à voir, quoi. D'ailleurs, enfin, moi, j'ai arrêté ma carrière à 34 ans. Je peux la continuer à 50 ans aujourd'hui à la voile parce que ça demande pas les mêmes engagements physiques. Enfin, ça demande d'être beaucoup plus dur au mal. Ça demande d'être beaucoup plus 4-4, hein, de capable de moins dormir. Et c'est, d'ailleurs, c'est très drôle parce que quand j'étais athlète, on était tellement focalisé sur soi, et encore moi j'essaie de faire attention à ça, mais on pensait que à soi, quoi. C'est-à-dire les heures d'entraînement, la récupération, les étirements, les massages, les heures de sommeil, etc., etc. Et si on n'avait pas tout coché, on disait peut-être que j'ai un manque de sommeil là, et j'ai pas eu mes 9h45 ou je sais pas combien, j'ai pas eu mes 3 massages. Et là, quand on est sur un bateau au large, on dort dans l'humidité, dans l'eau, parfois on dort pas, parfois on mange pas, on est malade et on continue à bosser. On est dans un inconfort que je pense que si on reportait ça 20 ans plus tôt, quand j'étais athlète, j'aurais jamais accepté. Jamais accepté. En gros, ce qui est intéressant, c'est de voir que le corps s'adapte à tout, mais c'est une bonne leçon.
Et pour toi, le sommeil, c'est un sujet? Le fait d'avoir très peu d'heures et de...
Bah non, quand j'étais athlète, je faisais très attention à avoir mon quota de sommeil, mais je crois jamais avoir été un très gros dormeur, et du coup... Bah là, avec cette activité, encore moins, quoi. Donc, je souffre pas du manque de sommeil. Et puis surtout, j'arrive à m'endormir. J'arrive à m'endormir rapidement et c'est la clé, quoi. On se pose, on dort, et même une heure, c'est bon, quoi. On peut continuer et en faire plusieurs. Enfin, sur un bâton, la vie n'a plus rien à voir que les repères qui sont à terre. Donc, du coup, moi, je galère pas avec ça.
Bah écoute, hyper, hyper intéressant. Et j'avais une toute dernière question, peut-être, et après, je vois que le temps file pas mal, et déjà, merci beaucoup pour tout le temps que tu m'accordes. Si j'avais vu deux choses, c'est que la première, c'est que tu t'étais entouré d'un coach. Dis-moi, enfin, je sais pas si c'est le bon mot, mais avec Roland Jourdain, si c'est bien ça. Enfin, en tout cas, t'as travaillé avec lui.
Oui, oui. En fait, quand j'ai fait un bilan. Un bilan de compétences à la suite de la dernière Route du Rhum où ça s'est pas passé comme je voulais pour des raisons météorologiques principalement. Et puis après, j'ai pas voulu me cacher derrière ça en disant, bon, sûrement il y a la météo qui est très compliquée, les 3 dépressions tropicales à passer. Enfin bref, moi, je me suis pas senti me lancer là-dedans. Mais je me dis, quels sont mes manques pour continuer à progresser, surtout si on part sur un bateau neuf. Et donc, en fait, je manquais d'encadrement et de coach, enfin, des gens qui pouvaient m'entourer sur mon projet sportivement, mais aussi dans les conseils, enfin pour me dire où ça pêchait ou pas. Donc voilà, donc j'ai changé un peu de j'ai enrichi ma structure, hein, et puis je me suis rapproché dans l'effet de Roland Jourdain, qui m'accueille aujourd'hui à Concarneau et qui a un œil bienveillant. On va commencer à bien travailler cette saison ensemble. On n'a pas pour l'instant encore tout mis en place parce que le bateau était mis tard à l'eau l'année dernière et on n'a pas eu le temps de travailler, en fait. Et puis également avec Tanguy Le Glatin, qui fait partie des grands entraîneurs de course au large, qui est à Lorient. Et j'ai commencé à bosser avec lui, à faire pas même quelques stages en Figaro, et c'était très instructif. Donc je pense retourner, enfin voilà, donc il y a ces deux personnes qui vont m'aider sportivement, des choses que je n'avais pas avant, et c'était sûrement à apporter maintenant, parce que vu que j'ai des ambitions un peu plus hautes, en tout cas avec un bateau neuf, c'est à la moindre des choses d'évoluer aussi sur ce côté-là.
Qu'est-ce qui t'apporte concrètement? Comment est-ce que vous travaillez ensemble? Ça va être plutôt sur de la technique de voile, donc ils vont monter avec toi sur ton bateau et t'analyser et te donner des conseils. Est-ce que ça va être plutôt être sur, ils vont te mettre faire faire des tests?
Moi, je pense que, enfin, il y a deux parties, en fait. Il y a la mise au point du bateau et l'optimisation du bateau, et après il y a la partie très sportive de le faire marcher, quoi, le bien le faire marcher. Et donc la première partie, je pense qu'on va beaucoup travailler avec Roland Jourdain, donc il va venir à bord avec moi, il va regarder si c'est plus intéressant de mettre le mât plus comme ça, de mettre le matériel à l'intérieur, le déplacer plus, enfin voilà, de travailler sur des choses, on va dire mécaniques, de performance du bateau. Et donc c'est l'infini, hein. Et donc pour ça, il faut passer un peu de temps ensemble, il faut se comparer avec d'autres bateaux aussi. Donc on sera trois bateaux, dont un autre qui serait l'identique que le mien, donc c'est très intéressant. Et à côté de ça, donc avec Tanguy, bah lui c'est d'aller faire des stages avec d'autres, et puis lui il est sur un semi-rigide derrière, et il regarde plutôt comment t'as réglé tes voiles, ton attitude à bord, quoi, comment tu te comportes à bord pour que ça soit le plus, comment tu fais ta manœuvre, voilà, si tu perds du temps de ta manœuvre, ou si elle est dangereuse, ou si elle est pas efficace, ou s'il y a mieux à faire. Et donc on discute autour de ça, enfin voilà, schématisme en gros, c'est ça. Et puis en même temps la lecture météo aussi, il va falloir que j'apporte un regard un peu plus attentif, un progresser là-dessus. Mais c'est ce que j'ai commencé à faire cette année, notamment avec Eric Perron, à qui j'ai fait la Transat Jacques Vabre, qui m'a beaucoup appris dans l'utilisation des outils de météo, des choses que je maîtrisais pas encore bien.
Mais j'ai l'impression, quoi, que tu as une analyse, enfin que tu as une approche en tout cas très très professionnelle sur effectivement comment, de qui tu t'entoures, quelles compétences tu vas chercher, comment est-ce que tu fais pour progresser, tu vois. Et j'ai l'impression que ça te que t'apportes vraiment cette touche-là, tu vois, pour avoir rencontré d'autres skippers. Ils ont pas toujours cette démarche de se dire, OK, bah, de qui je vais m'entourer, de quelles compétences j'ai besoin pour progresser, quoi.
Moi, je pars du principe, c'est comme quand j'étais à la perche, que chacun détient une part de vérité et en sait beaucoup plus que moi, déjà. Donc, quand il y a un enfant qui fait l'optimiste et qui vient me dire quelque chose, je l'écoute en me disant, il va peut-être me donner la clé de quelque chose, quoi. Et à la perche, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire, j'ai adoré m'inspirer de ce que se faisait, dans les pays de l'Est, des perchistes français, notre histoire de la perche française, d'autres perchistes qui pouvaient arriver, qui avaient des sensations, et ça pouvait être des perchistes en junior qui faisaient quelque chose de bien, comme les meilleurs du monde. Donc j'ai toujours eu besoin, parce que je pense qu'en effet, on revient à ce qu'on disait au début, cette histoire de manque de confiance, donc d'aller chercher et d'être une éponge de ce qui pouvait se passer ailleurs. Et là, dans mon niveau de bateau, c'est encore où je suis aujourd'hui, c'est encore plus ça, enfin c'est vraiment ça plutôt. C'est-à-dire que moi je pense que je maîtrise de mieux en mieux, ça fait 15 ans je suis dans cet univers, j'ai plein de choses que je sais faire, mais il y a des choses, je suis pas certain de bien les faire, donc j'ai toujours ce doute de savoir si je fais bien les choses. Et donc j'ai toujours besoin de comprendre, d'écouter ce que font les autres, et après le plus difficile dans tout ça, c'est trancher, on est prendre une décision, mais plus on en sait, plus on voit à peu près ce qui peut nous correspondre. C'est ça l'histoire. On fait en fonction de soi, pas en fonction de ce qu'on doit faire parce que quelqu'un le fait comme ça. Par contre, il faut faire des remontées d'informations tout le temps.
Hyper, hyper intéressant. Écoute, j'ai fait le tour un petit peu de tous les sujets que je voulais aborder avec toi. J'ai trois questions de la fin que je pose à tous les invités pour clôturer chacun des épisodes. Le tout premier, c'est de savoir quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné, que ce soit en tant que marin ou en tant que perchiste, mais en tout cas un conseil que t'as gardé et peut-être que tu gardes comme mantra ou une phrase que tu te répètes souvent. On a parlé d'entrain tout à l'heure et
j'ai envie de te dire ça, j'ai envie de dire voilà, l'entrain c'est de l'entraînement, c'est de l'entrain internellement, quoi. C'est-à-dire que tu mets pas cette peps. Déjà, c'est triste à faire, et puis en même temps, tu le fais pas. Mais je dis pas que je le fais tout le temps, hein. Parfois, il faut faire des séances physiques, d'entraînement, il pleut, il fait pas beau, il fait froid. Courbature, t'y vas pas, quoi. Et puis, ou alors, tu vas pour naviguer, pareil, c'est pas les bonnes conditions, tu trouves une excuse pour pas y aller. Et parfois, ça m'arrive de la trouver, mais souvent, je me secoue en me disant non. Reste joyeux, heureux, enfin, trouve de l'entrain pour faire les choses, quoi. Voilà. Un peu ça, t'as raison.
La deuxième question, c'est, où est-ce que tu te vois dans 10 ans?
Aucune idée. J'ai pas de plan de carrière et je refuse d'en avoir. Et du coup, je sais pas. Enfin, c'est le principe de ma vie, quoi. Je suis pensé que tout était envisageable, tout était abordable, parce que quand on doute de tout, en fin de compte, on peut arriver à tout. On peut atteindre n'importe quoi. Donc, aucune idée. Je sais, c'est que je referai plus 6 mètres à la perche. Par contre, c'est sûr.
Bah écoute, on sait pas, hein. Il y a peut-être des nouvelles perches qui vont être créées ou la discipline va peut-être être réinventée. Et enfin, la toute dernière question, c'est un petit peu Ben, c'est comme un passage de flambeau, mais c'est plutôt un passage de micro. C'est de savoir quelle est la prochaine personne que tu me recommandes d'aller interviewer pour aller discuter performance, pour aider discuter raison d'être, envie de performer, pour parler aussi de tout et de rien dans le sport. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te vient en tête et que tu aimerais bien écouter? Ça peut être un marin ou un athlète.
Je vais vous donner trois noms. Alors, un, Maurice Ouvion. Maurice a 87 ans et il a une fraîcheur d'esprit, une vivacité qui fait du bien, quoi. Voilà. Puis c'est un beau compteur. En deux, Roland Jourdain, on en a parlé, Bilou, parce que c'est un qui est plein d'humanité et de plein de bienveillance. Typiquement sur un bateau, Roland, il a fait je sais pas combien de tours du monde, il a gagné deux routes du Rhum, enfin on parle même plus de son palmarès. Quand on est sur un bateau avec lui, il pose la question, qu'est-ce que t'en penses, elle est bien réglée ma voile? Tu dis, ah bon, c'est à moi que tu te demandes. Voilà, parce que pour lui, il met les gens au centre de la discussion et de l'intérêt. Donc moi j'adore cette façon de voir les choses. Et puis après en fait t'as toujours l'impression que c'est toi qui prends que c'est toi qui a pris la décision, mais en fait il t'a juste mis où il fallait, quoi. Voilà, donc j'aime bien. Puis c'est un mec en or, quoi, qui pareil plein de choses à raconter. Et puis en trois, un autre personnage, mais qui s'appelle Stéphane Diagana. Stéphane, c'est un copain d'athlétisme, hein, de la génération. Stéphane, champion du monde du 400 m, qui est un mec extrêmement brillant, qui est quelqu'un qui a une vision très, on va dire, professeur de l'analyse des choses, qui est très pédagogue, mais qui est d'une grande générosité intellectuelle et qui explique bien les choses avec profondeur. Et sur les questions précises, il va être moins sur l'émotion, moins sur des sentiments ou des intentions. Par contre, tout le reste, c'est un chef-d'œuvre. D'ailleurs, c'est un excellent orateur en entreprise parce qu'il s'est donné ça, quoi. Et puis c'est un mec adorable et super gentil. Donc voilà, c'est les trois personnes moi qui je pense que je te conseillerais. Il y en a d'autres, hein, mais bon voilà, ça me vient comme ça.
Ok, bah écoute, excellente recommandation. J'ai les coordonnées de Stéphane d'ailleurs. Il faut que je lui écrive. Donc c'est une très très bonne. Tu me fais une très bonne piqûre de rappel. Et pour Maurice et Roland, peut-être que tu as les contacts. On en reparle en privé.
Ouais,
mais, ouais. Mais avec grand plaisir, avec grand plaisir. En tout cas, t'entendre parler d'eux me donne très envie de les rencontrer. Donc ça serait avec une immense joie que je puisse aller les rencontrer. Écoute Jean, merci pour cette heure et quart. Je me suis régalé. C'était hyper plaisant de pouvoir parler un peu du Paris Saint-Germain aussi et aussi de ta découverte du sport jusqu'à aujourd'hui et découvrir un petit peu les dessous de ta performance aujourd'hui. Et franchement, merci pour tout, pour ta transparence aussi, parce qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels tu t'as été très sincère. Donc merci infiniment pour ton temps et je suis sûr que les auditeurs vont adorer. Qu'est-ce qu'on peut demander aux auditeurs? Où est-ce qu'on peut leur demander de te suivre? S'ils ont envie de nous remercier pour cet épisode, qu'est-ce qu'on peut leur demander de faire?
Moi, j'ai une saison qui commence à Caen, sur une régate mi-mai. Ça s'appelle la Normandie Channel Race. Mon bateau sera là à partir de début mai, qui vient de dire bonjour avec plaisir. Et puis après, je vais peut-être du côté de La Rochelle en juin et en juillet du côté de Cherbourg et de la Trinité. Et puis après, c'est la route du Rhum à Saint-Malo. Donc voilà comment on peut suivre tout ça. Et puis, rien. Enfin, qui t'écoute toi, c'est les belles histoires, c'est toi qui les racontes.
Ah, moi, je fais rien. Moi, je prends par la main et j'accompagne les gens pour qu'ils racontent leur histoire, mais je fais rien de plus. Écoute, merci beaucoup, Jean. C'était vraiment un plaisir. J'espère pouvoir voir de belles images sur ton bateau et apprendre de belles nouvelles pour cette année. En tout cas, moi, je vais suivre ça de près. Et puis, si je passe dans le coin, je te dirai pourquoi pas aller faire un petit tour en mer.
Avec plaisir, n'hésite pas.
Salut Jean, à bientôt.
Salut, à bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.